Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour à Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Bonjour Pierre.
Bonjour.
J'ai bien eu le mot d'excuse de Catherine Nel, sera de retour parmi nous la semaine prochaine. Au programme, déjà 26 fugueurs parmi les rescapés de l'Ocean Viking, 26 mineurs qui se sont fait la belle et qui donc par définition sont dans la nature. Les oppositions politiques sont au rendez-vous, écrit de concert, on vous avait prévenu. Gérald Darmanin lui reçoit le camouflet en pleine figure à l'aube de son projet de loi sur l'immigration. Faut-il y voir l'échec de la politique migratoire française ou de l'Union européenne ? Sans doute des deux, premier sujet de discussion. L'Ukraine se demande comment elle va passer l'hiver. Après la libération de Kherson, les espoirs de paix sont vite retombés. Surtout lorsque le monde a tremblé quand un missile de fabrication russe est tombé en territoire polonais, tuant 2 personnes. Et même s'il s'agit d'une erreur de la défense anti-aérienne ukrainienne vraisemblablement, tout le monde s'accorde à rappeler que la genèse de la guerre commence à Moscou. Alors à ce stade, quelles négociations possibles ? Nous le verrons. Les États-Unis, eux, ont déjà mis le cap sur 2024. Donald Trump veut revenir sur le ring et tuer dans l'œuf la candidature de Ron DeSantis, son rival brillamment réélu gouverneur de Floride et pressenti pour être le candidat républicain. Trump a-t-il encore ses chances ? Enfin, la planète foot s'apprête à vibrer au Qatar avec l'ouverture demain de la 22e Coupe du Monde. Pourtant, ce n'est pas le sport qui fait parler, mais l'État organisateur, le Qatar, source de toute polémique. Nous en débattons en fin d'émission. Vous avez le programme, le débat des grandes voix, c'est parti. On a donc appris jeudi que 26 des 44 migrants mineurs pris en charge par la France ont fugué. Pour la plupart érythréens, ils auraient choisi de rejoindre de façon clandestine de la famille ou des amis en Allemagne, en Norvège ou en Suède. Les oppositions sont vent debout sur le thème « on vous avait prévenu ». Est-ce un camouflet de plus pour la politique migratoire française, Charles Villeneuve ?
Oui. Je pense que c'est dévastateur pour la politique migratoire française. Selon le dernier rapport, je vais vous le citer, de l'Union européenne, qui a été publié début octobre, les tentatives de franchissement irrégulier de frontières par des migrants sur les 9 premiers mois de 2022 ont été multipliées par 10, je dis bien par 10, dans les Balkans notamment, par rapport à la période correspondante en 2019. On peut donc dès lors, je crois, considérer que la politique européenne elle-même est en train de se disloquer sur le plan des migrants. Le bateau Ocean Viking est une opération, rappelons-le, voulue par le chef de l'État lui-même, Emmanuel Macron. Or, elle a mobilisé, nous dit-on, 600 personnes. Elle nous a été présentée comme humaine, censée, encadrée, bordée, contrôlée de bout en bout, et elle a tourné au fiasco. Il faut le dire, je crois qu'elle est en train de faire naufrage dans la rade de Toulon, cette opération. Alors que l'Afrique, je viens de vous citer le rapport de l'Union européenne, est devenue une bombe démographique à nos frontières.
Gérard Carrérou.
Alors je partage globalement ce que vient de dire Charles, je ne vais donc pas répéter exactement ce qu'il a dit, et faire moi aussi mon numéro sur les... Je ne parle pas pour Charles, mais pour ceux qui ont parlé de fiasco, fiasco, fiasco. Bon. C'est vrai que c'est calamiteux. C'est calamiteux pour la France, pas seulement pour le ministre de l'Intérieur, pour le président de la République, qui en dernier ressort, prend la décision. Donc c'est calamiteux. Mais je dirais, et je me souviens de ce que je disais il y a une semaine sur le sujet, à partir du moment où on fait un gros mensonge, un gros mensonge qui est le mensonge... attention, ces gens vont mourir et vous aurez leur cadavre sur ce sera votre conscience à vous. C'était faux. Tout le monde savait qu'ils étaient sur un bateau, ils étaient nourris, ils avaient ce qu'il fallait pour
ils étaient en mauvaise
survivre.
Santé pour certains d'entre eux qui ont dû être en urgence envoyés à l'hôpital de Bastia.
Ça arrive de temps en temps sur un bateau, même pour les gens qui font des croisières, il y en a qui sont en mauvaise santé.
Mais ce que je veux dire, c'est pas un bateau de croisière.
Faut pas ruser avec
faut
pas ruser avec les choses. On savait qu'en accueillant ce bateau, on n'était pas, et c'est là que le mensonge intervient, on n'était pas en situation de traiter les gens qui étaient à bord. On a vu, et c'est ça qui éclate, si on accueille le bateau, il faut s'assurer, gouverner, c'est choisir et prévoir. Si on a les moyens de traiter, on traite. Si on n'a pas les moyens, on fait comme les Italiens, on renvoie le bateau Elle l'a fait pour Madame Meloni, le quatrième bateau. Or là, on a eu le révélateur du fait que, un, nous n'avons pas un état de droit qui accompagne notre politique migratoire. On l'a vu, c'est impossible. Mmh. Et deuxièmement, on a vu que tout le monde fait comme si on avait un état de droit. Donc tout ce que prévoit Darmanin dans un projet de loi qui doit venir, est d'ores et déjà caduque, déjà morné, parce qu'on n'a pas les moyens de l'appliquer. C'est simple. Et ça, là où est le drame, c'est là que les Français l'ont compris, je crois. C'est un révélateur absolu vis-à-vis de l'opinion.
Non, Michel Cotta.
Je ne vais pas dire que c'est une réussite. Hein. Moi, je fais partie des gens qui pensaient, et je l'ai dit aussi la semaine dernière, que on ne pouvait pas laisser un bateau errer interminablement en Méditerranée et qu'il valait mieux le reprendre. À partir de ce moment-là, effectivement, il faut surveiller et voir si on a la loi qui permet cette improvisation. Manifestement,
cette improvisation,
la loi ne permet
qu'est-ce
pas...
que vous appelez une improvisation
L'improvisation de faire venir un bateau.
D'accord. Non, mais appelons un chat comme ça pour que tout le monde comprenne.
Sur la rade de Toulon, qui n'est pas équipé pour ça.
C'est que c'est la débandade, là. Et donc, alors qu'on a dit que c'était une opération contrôlée de bout en bout, c'est ce qu'elle veut dire.
Moi, je comprends ce que je veux dire. Je comprends la décision de faire venir le bateau. Je comprends moins, effectivement, ce qui a suivi. Mais je comprends aussi que la loi française ne permet en aucun cas de maintenir des gens au-delà de 24 heures, au-delà de 48 heures. Que donc, on n'a pas les moyens. Bon, voilà, ça fait des années qu'on tourne autour d'une politique migratoire et qu'on n'y arrive pas.
Mais
bon,
on se gargarise, Michel. Autour d'un état de droit. Oui. Et cet état de droit, c'est l'empilement d'un certain nombre de règles qui ne sont pas applicables. Non, et là, on l'a vu.
Eh bien, il faut changer les règles applicables.
Mais voilà, mais pourquoi
il faut changer ces règles applicables. Pourquoi est-ce qu'on a fait des délais de rétention? Je vous rappelle que les délais de rétention sont très courts, quand même. Trop courts. On le sait. Tout le monde le sait. Et que régulièrement, le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel disent non, on peut tant de jours, mais pas plus, parce qu'après, c'est une atteinte aux libertés. Bon, il y a manifestement un problème entre
l'État... Ils peuvent être gardés 20 jours, maximum 26, et je crois que c'est 96 heures le délai.
Voilà, c'est 96 heures, avec 5 magistrats, et combien de nationalités...
Et un traducteur et 12 recours.
On est d'accord, c'est une erreur. C'est... Bon, voilà, ça a été très mal géré. Moyennant quoi, ça pose d'autres problèmes et au-delà de la France. Parce que le défi migratoire, malheureusement, il est partout et malheureusement, on sait mal comment le diriger. Sinon, on l'aurait fait depuis longtemps.
Et quand Marine Le Pen dit que le gouvernement a désormais son affaire Leonarda, elle a raison de dire ça? C'est de la punchline, c'est de la politique politicienne.
C'est de la punchline. Là, franchement, c'est de la punchline. Ça n'a rien à voir. Il a effectivement, un gros échec. Un gros échec.
Pourquoi c'est bien vu, Charles?
Parce que justement, c'est la débandade de la même manière que ce qui avait stigmatisé François Hollande, qui offrait à Leonarda, qui était une réfugiée en même temps, toute une famille, Rome, et qui rentrait dans son pays, il lui a offert le soin de rester pour continuer à aller à l'école, en classe, et ce qu'elle a refusé. Donc, à partir de là, évidemment, ça a été, en quelque sorte, si vous voulez, une sorte de vexation officielle. Mais moi, je reviendrai sur une...
C'est bien de rappeler ça parce qu'on n'a pas tous retenu l'affaire Leonarda. Nous, bien sûr, parce qu'on a... C'est notre métier, mais je pense que l'ensemble des auditeurs ne se souviennent pas forcément ce que c'était que l'affaire Leonarda.
C'est en 2013, avec sa famille, elle rentrait vers le Kosovo. Bon, non, mais moi, justement, Michel et Gérard ont abordé le problème de fond de la France, qui n'est pas celui de l'Allemagne, qui n'est pas celui de l'Italie. Et c'est la raison pour laquelle une politique de l'Union européenne est impossible. Pourquoi ? Parce que la problématique de la France, c'est qu'elle oscille en permanence, elle est tiraillée entre la fermeté, les droits de l'homme, l'état de droit, sa complexité juridique, dont il résulte, si vous voulez, une navigation à vue. On tangue entre fermeté et ouverture en permanence. Sait-on encore aujourd'hui quelle est la politique en la matière de réception et d'accueil de ces bateaux? Et ça a donné ce qu'on a vu. Parce que ça ne peut pas donner ailleurs. L'Allemagne, vous prenez l'Allemagne. L'Allemagne, elle a un problème de natalité. Or, elle a aussi un autre problème, c'est l'emploi au niveau de demande de ses patrons. Et donc, l'Allemagne choisit avec précision les meilleurs des émigrés. elle leur donne une éducation d'abord, elle leur impose l'apprentissage de la langue.
Ça s'appelle
l'immigration
au travail.
L'apprentissage de la... ce que nous ne faisons pas.
Bah, en attendant, on a un projet de loi qui est fait à quatre mains avec le ministre du Travail et le ministre de l'Intérieur.
Alors, c'est pour ça que je disais qu'il est déjà caduc.
Si je décrypte bien, et Olivier Dussopt sera demain au grand rendez-vous, ben, donc il nous en dira un peu plus.
Oui, ça résume ce que je viens de dire.
Exactement.
La fermeté, l'état de droit,
la complexité du droit. On va marquer une pause et on revient juste après avec Michel Cotta et Gérard Carré. Vous inquiétez pas, tout va bien. On marque une pause et on revient.
Europe 1, Pierre de Villeneuve.
Avec Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrère, souvenez-vous, Emmanuel Macron, qui était au Forum sur la paix à Paris le week-end dernier, disait « Attendez, la question de l'immigration en France, il faut d'abord régler la politique européenne sur l'immigration et aussi nos rapports vis-à-vis de l'Afrique, Gérard Carrère. »
Il a raison sur le fond, c'est vrai. On dit on est en Europe, il faut qu'il y ait une politique européenne de l'immigration comme on a défini d'autres secteurs. On l'a vu avec la Covid pour un certain nombre de domaines, les médicaments, etc. On a essayé de le faire en tout cas. Là, le problème n'est pas simple parce que la plupart... D'abord, c'est un problème d'intérêt. Chaque État-nation a ses intérêts concernant le problème. Il y a ceux qui ont besoin de davantage de main-d'œuvre parce que leur démocratie... Alors, la démographie s'affaisse, notamment c'est l'Allemagne. Et on comprend très bien la position de Mme Merkel quand elle a fait d'un seul coup entrer 1 million de migrants. Et puis il y a ceux qui finalement ont un peu besoin et surtout choisi, c'est-à-dire un certain nombre de professions, c'est plutôt nous, et ceux qui n'ont pas besoin du tout ou qui estiment qu'ils en ont déjà largement trop, et c'est un peu ceux qui sont en train de revenir en arrière. Mais le problème, c'est qu'il y a un fort dans l'Union européenne, telle qu'elle est dirigée, par ses dirigeants. Et il y a un très fort courant pour avoir davantage d'immigration. Pour eux, c'est plus il y a d'immigration,
mieux
plus,
c'est.
Plus l'Europe devient de plus en plus... Eux, ils ont l'intérêt d'une Europe, un immense... C'est toujours le rêve américain dans la tête. Plus c'est grand, plus... Et en même temps...
C'est qui? C'est Charles Michel? C'est Ursula von der Leyen?
C'est tous les... une partie des dirigeants européens. Le reproche que je ferai là, vous savez, à M. Macron, c'est d'avoir un peu trop épousé cette tendance-là dans un pays où, manifestement, les gens se disent « Attention, on a atteint des chiffres ». Parce qu'il y a quelque chose qui a changé. Personne ne l'a vraiment dit. Mais les statistiques ethniques étaient interdites en France jusqu'à ces derniers mois. Et on disait « Surtout pas, c'est pas bien, ça permet le racisme, etc. » Et je m'aperçois qu'au plus haut niveau de l'État, le ministre de l'Intérieur, maintenant, il nous donne des statistiques ethniques. On nous dit, on mettait...
Ce qu'on fait aux États-Unis.
Mais bien sûr, moi je suis pour, depuis le début.
C'est légal.
C'est des éléments pour apprécier un problème, c'est d'avoir les chiffres. Bon, mais on disait, non, c'est pas bien, il faut pas le dire. Maintenant, on a Darmanin qui nous dit, attention, à Paris, il y a la moitié des délinquants sont des étrangers. Et puis dans les prisons françaises, j'ai vu le chiffre, on nous dit maintenant, on peut dire 25% des prisonniers dans nos prisons. Mais avant, on allait devant le juge. Quand on disait ça,
Michel Cotta.
Non, le paradoxe, c'est qu'effectivement, je relis ce qu'a dit Emmanuel Macron à Caroline Roux dans la dernière émission. C'est
26 octobre.
Il serait absurde de ne pas dire qu'une petite partie des étrangers est responsable d'une grande partie des actes de délinquance. C'est au moment où il dit ça, évidemment, que se pose ce problème qui est mineur, parce que 234 personnes, c'est mineur, mais en réalité, c'est
un
problème. En réalité, c'est un problème majeur. Je pense qu'on a tous des intérêts différents en Europe. Il y a quand même une politique très, très humanitaire et droit de l'homiste, comme on dit, de l'Europe et de Mme von der Leyen et de M. Michel, c'est sûr. Et c'est sûr aussi que ce qui fait peur, c'est à quel point ça nourrit évidemment, l'extrême droite. On voit très bien que si on ne fait rien, c'est l'extrême droite qui en profitera. Moi, ça fait très longtemps que je pense que si le Parti Socialiste, par exemple, a perdu son audience sur les classes moyennes ou les classes populaires, c'est parce qu'il a mésestimé ce problème.
Ils n'ont pas de réponse sur le problème de l'immigration.
Personne n'a de réponse, la preuve. Il me semble que précédemment, il n'y a pas eu de réponse non plus. On a eu je ne sais pas combien de lois sur l'immigration et ça ne marche jamais. Il y a quand même un problème.
Entre pas de réponse et pas de réponse, la gauche, pardonnez-moi, mais on ne les entend pas du tout, en fait, sur ce sujet.
Pas du tout. Qu'est-ce que je voulais qu'ils disent? Alors, je voulais simplement... Qu'est-ce que je voulais qu'ils disent? Ça fait des années...
Ils disent depuis des années qu'il ne faut surtout pas parler de l'immigration. Il ne faut surtout pas. Attends, ils ont été au pouvoir.
Non, mais ils ne sont pas au pouvoir. Oui, mais enfin, Sarkozy aussi a été au pouvoir.
Quand on parle d'immigration, disent-ils, on fait du racisme et on fait le jeu du Front National. C'était ça la doctrine. On fait le jeu du Front National dès qu'on prononce le mot immigration.
Alors, le problème, quand même.
Alors, Michel Cotta et ensuite Charles Michel.
Il me semble que lorsque tu dis que. Charles, ce que tu dis qu'on n'a pas les mêmes besoins que l'Allemagne, c'est sûr qu'on n'a pas besoin d'une immigration large, générale, démographique. On a besoin néanmoins d'une immigration choisie. Et ça, le club de la presse Europe 1 hier soir, effectivement, Stephen Smith qui dit ceux qui partent d'Afrique, la croissance démographique dans les pays riches est essentiellement due à la migration. Parce que ceux qui partent d'Afrique sont ceux qui ont de l'argent.
Oui. Bon,
donc
ça
il faut quand même
000,
se dire que
ça
nous,
coûte 5 000 euros
non,
de payer les passeurs.
La France a besoin surtout.
On alimente d'ailleurs le trafic d'êtres humains.
En matière d'emploi, la France a aussi besoin d'une immigration choisie.
Oui,
tant qu'on ne dit pas le mot
mais
immigration
choisie. Mais on répète toujours choisie, la même chose.
Mais
c'est la raison pour laquelle je ne crois absolument pas à une politique européenne cohérente. Prenons les trois pays fondateurs de l'Europe. On n'en a parlé que de deux. La France et l'Allemagne. On oublie l'Italie. L'Italie, ce n'est pas du tout le même sujet que nous. L'Italie, elle est en première ligne parce que l'afflux massif venu de Libye notamment impose un peu plus de solidarité européenne. Or, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Chacun des pays membres de l'Union européenne voit d'abord ses intérêts, dont la plupart ne correspondent pas à ceux de ses voisins. Nous n'avons pas les mêmes intérêts que les Allemands. Les Allemands n'ont pas les mêmes intérêts que les Français. Et les Français et les Allemands n'ont
donc pas
les mêmes intérêts
commune possible.
Que l'Italie.
En matière migratoire.
L'Allemagne, quand j'entends Mme van der Leyen dire ce qu'elle dit, je trouve que c'est profondément malhonnête.
Sur quoi, par exemple?
Parce qu'ils ont une natalité extrêmement faible.
Oui.
Ils ont une demande très importante de main-d'œuvre. Ils choisissent par curriculum vitae. Tout.
Ils
choisissent les meilleurs.
C'est pour ça qu'on est dans une hypocrisie terrible.
Tu as dit tout ce que tu as pu dire.
Oh non, pas.
Elle
en a sous le pied.
Mais si, parce que c'est sans solution.
Mais vendredi prochain, il y a un sommet européen sur ce sujet-là, notamment avec la France qui réclame des initiatives européennes.
On va entendre quoi de toute façon.
On va en parler samedi prochain.
L'humanisme du chef de l'État, mais en même temps. Une tentative de fermeté. On met un gros œuf dans un tout petit œuf. S'il ne rentre pas. Mais c'est comme ça que ça va se passer. Et puis, de toute façon, ça va donner quoi comme résultat? Pourquoi il y a une débandade dont on l'a vu? Parce qu'on parle du soin dont ils avaient besoin et on les a débarqués. Mais ils étaient sur un bateau, un vrai bateau, pas un bateau en caoutchouc.
C'est très exactement ce que je disais.
Oui, pas un zodiaque.
Donc on a menti quand on a dit ces gens étaient en danger de mort.
10h28, je pense qu'on a tout dit sur ce sujet et encore une fois, on va en parler samedi prochain puisqu'il y a cette réunion à Bruxelles des ministres de l'Intérieur de l'Union Européenne. On va voir ce qui s'y dit. 10h28 dans un instant, on parle de l'Ukraine. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Avec Gérard Carreau, Charles Villeneuve et Michel Cotta, le week-end dernier, ici même, nous étions de cœur avec les Ukrainiens de Kherson, sachant pertinemment, malheureusement, qu'une réplique russe était à craindre. Ça n'a pas manqué. Depuis le début de la semaine, une centaine de missiles ont plu sur les villes de Kiev, Lviv et Kharkiv. Plus d'une dizaine de millions d'Ukrainiens sont depuis privés d'électricité, les infrastructures ayant été ciblées. Est-ce qu'on entre dans une guerre d'usure du côté russe, Michel Cotta?
Franchement, je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Mais d'usure du côté russe, mais d'usure du côté ukrainien aussi.
Bien sûr.
Donc, je pense que c'est une guerre longue. Et au fond, il vaut mieux que ce soit une guerre longue qu'une guerre qui se termine mal et une guerre dans laquelle nous soyons des co-belligérants. On est d'accord. On entre dans un gel à tous les sens du mot, mais je crois que vous vous rappelez quand on avait parlé de Kherson l'autre jour, on a dit quand même que on était loin, c'était loin de dire que c'était la victoire définitive de l'Ukraine. Il était normal que la Russie riposte, elle a riposté trop violemment. Ça s'est mal terminé pour la contre-défense, si j'ose dire, ukrainienne. C'est effectivement une guerre dans laquelle on ne voit pas la solution. On sait bien qu'il y a des discussions, on sait bien qu'il y a des discussions entre les Russes et les Américains, mais on ne voit pas comment les Ukrainiens pourraient, à un moment donné, les accepter aujourd'hui. Donc tout le monde s'enfonce dans une guerre longue, avec en point de mire surtout la Crimée, que jamais les Ukrainiens n'abandonneront et que jamais les Russes n'abandonneront. Par conséquent, c'est ça, au fond, il me semble que c'est autour de la Crimée maintenant que se concentrent et les négociations souterraines, peut-être avortées et puis reprises entre la Russie et les États-Unis. C'est autour de la Crimée que tout ça se concentre.
Gérard Carillon.
Moi, je trouve que cette semaine a été peut-être la plus importante depuis le début de la guerre. Ça fait presque 9 mois qu'est la guerre. Pourquoi ? Parce que effectivement, on a exclu une première chose qui fait peur à des millions d'entre nous, qui est la guerre nucléaire et les perspectives, les menaces de guerre nucléaire. On s'est toujours dit, attention, s'il y a une bavure, une erreur. Là, on a vu quand même que les responsables au niveau international, et je mettrai bien sûr Biden, je vais en dire un mot, mais je mettrai même M. Poutine là-dedans, les responsables sont plus responsables qu'on ne pouvait le penser. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'avec les moyens modernes de renseignement, on évitera une guerre par une simple bavure. Oh, je veux dire, on n'est pas en 1914, on n'est plus un siècle après à la merci d'un attentat personnel ou d'un attentat à travers un missile. Donc ça, c'est quand même rassurant. Deuxièmement, on a vu une deuxième chose claire, qui commande ? Et qui commande, c'est impressionnant, c'est M. Biden, président des États-Unis, même si on l'a parfois, moi-même, de temps en temps, un peu moqué. Mais en tout cas, Biden et l'administration américaine, le Pentagone et ses conseillers autour de lui, et c'est eux tout de suite qui ont désamorcé la crise. En quelques heures, il a dit les mots qu'il fallait dire. Il a dit « je ne crois pas ». Je ne crois pas, alors que Zelensky commençait à faire des moulinets, il a dit non, je ne crois pas. Et à partir de là, tout s'est calmé. Le Polonais, le Premier ministre polonais, tout le monde a dit bon, et on a décidé d'un commun accord qu'il fallait éponger cet événement. Et du coup, ça nous amène à une troisième réflexion, la dernière, c'est ça permet d'imaginer un retour à la table de négociation. À condition, effectivement, de calmer un peu Zelensky, mais ça, les Américains s'y emploieront, ils ont déjà commencé. Et deuxièmement, effectivement, d'admettre qu'il y a des choses qui ne sont pas dans la discussion. Je pense que Michel a eu raison de le dire, la Crimée n'est pas dans la discussion. On ne discutera pas dans un processus de paix de la Crimée. Elle restera russe parce qu'elle l'est depuis 2 siècles. Mais par contre, on faudra bien trouver un modus vivendi pour le reste. Mais ça, je pense que c'est l'affaire des diplomates. En tout cas, on a avancé.
On le dit depuis le début de la guerre.
Mais on a avancé. On a avancé dans le bon sens. Hein, pas de guerre nucléaire, probablement. Une guerre d'usure, sans doute. Mais une lueur de paix.
Non.
Alors, Charles Villeneuve dit non.
Non. Non à quoi ?
Non à quoi ?
C'est pas une guerre d'usure. C'est le replacement de tout le dispositif russe, à l'heure actuelle, qui se concentre sur la rive gauche, notamment du Dniepr. Pourquoi il est sur la rive gauche du Dniepr ? Parce qu'il y a 2 centrales, l'une d'alimentation en eau de toute la Crimée, de la mer d'Azov, de tous les territoires, à l'heure actuelle, que détiennent les Russes, et 3, parce qu'il y a une centrale électrique qui éclaire toute la Crimée. Ils sont en train de replacer tout leur dispositif, selon, de toute façon, une méthode que les Russes, qui sont des massacreurs, il ne faut jamais l'oublier, le viol, le massacre, fait partie des armes de guerre des Russes depuis toujours. Guerre en Tchétchénie, guerre en Afghanistan, guerre en Syrie. Bon.
Les partages de la Pologne,
pilonnage de la population ukrainienne dans une ambiance de terreur. À l'heure actuelle, c'est ça qui se passe. 10 millions d'Ukrainiens qui n'ont plus d'électricité et plus de chauffage. Il reste encore le gaz, heureusement. Ça, c'est un premier temps. Par rapport à ce que dit mes deux camarades, c'est vrai, ça va plus loin que de simples discussions. Les Américains ont bien fait comprendre à Zelensky que tu ne pourras plus reconquérir tout le territoire ukrainien. Va falloir que tu fasses des concessions.
Mais est-ce qu'il a compris ?
Je pense. Il y a 3 faits politiques qui vous le démontrent. premièrement la rencontre à Istanbul, en Turquie, entre Narishkin, le patron de tous les services secrets, ancien président de la Douma. Narishkin, c'est un aristocrate de très haut niveau de l'aristocratie russe. C'est l'héritier du comte Narishkin, amant de Catherine II, l'un des amants de Catherine II. Bon, Narishkin, il parle le français comme vous et moi. Il est commandeur de la Légion d'honneur.
C'était une langue qu'on apprenait à l'époque.
C'est un excellent. Le Narishkin d'aujourd'hui, pas celui qui a, de toute façon, fait la cour à Catherine II. Non. Le Narishkin d'aujourd'hui, le patron de tous les services
secrets. C'est un clone.
Bon, et qui est un intimissime de Poutine. Face à lui, il a certainement l'un des diplomates américains qui a le mieux réussi, notamment à Moscou. 5 ans ambassadeur des États-Unis à Moscou. Et aujourd'hui, directeur de la CIA, l'homme qui a initié complètement le chef d'état-major ukrainien Saljouni à l'invasion russe, est venu avertir, bien avant, 3 mois avant le 24 février, Zelensky et Saljouni. Les Américains, vraisemblablement, avaient une information extrêmement précise sur l'opération dite spéciale de Poutine. Et en cela, Poutine a été pris au piège, justement, du renseignement américain. Et deuxième chose, deuxième fait qui pour moi montre qu'une brèche, s'est ouverte dans laquelle un dialogue a commencé entre Russes et Américains à Istanbul, mais pas seulement à Istanbul, c'est que Narishkin et Burns ont parlé même des accords START, START 1, START 2, qui est la réduction des armes stratégiques. Et ça rejoint le propos et l'analyse de Gérard quand il dit finalement ce sont des responsables qui ont très bien compris qu'on ne pourra pas utiliser l'arme nucléaire tactique. Parce qu'appuyer sur le bouton nucléaire après 45, c'est-à-dire après Hiroshima et Nagasaki, c'est impossible de porter une telle responsabilité.
Et il y a une dernière raison que je n'ai pas dit tout à l'heure.
Et puis surtout, pardon.
T'en as une aussi encore.
Oui, bon, j'en ai une.
Oui.
C'est la déclaration du porte-parole du Kremlin, Peskov. Qu'est-ce qu'il a dit? Les Américains ont été particulièrement responsables et mesurés dans cette affaire.
Ouais.
C'est capital comme déclaration.
Ben oui, d'autant plus, et je l'ajoute sur les Américains, que nous n'avons pas évoqué le fait quand même important qu'à partir d'aujourd'hui, enfin à partir de la semaine dernière, les Américains sont entrés en campagne électorale présidentielle.
On va y venir, bien
sûr. Et que oui, je sais qu'on va y venir, mais en préambule, je dirais, l'opinion publique américaine, elle n'a pas pour cette guerre, si vous voulez, c'est pas le sujet quotidien.
C'est loin.
Même d'ailleurs dans les
c'est
télés,
loin. C'est loin pour les Américains.
Et il y a d'autres sujets. Donc, je pense que vu aussi du point de vue du président Biden, président et en même temps chef des démocrates, l'idée, effectivement, c'est qu'il voudrait peut-être quand même essayer de voir si on peut pas donner une perspective de paix.
Alors, on est d'accord, mais si on reprend la notion de guerre d'usure, je comprends ce que tu veux dire, Charles, en disant non, c'est pas une guerre d'usure, ça va s'arranger. D'accord, mais ça prendra du temps avant. Ça
mais
s'appelle
pas
une
dit
guerre
du tout que ça va s'arranger.
Mais je dis, c'est une guerre d'usure quand même, parce que c'est une guerre qui dure. C'est ça qu'on voulait dire. Et quand vous dites que le président ukrainien est convaincu du fait qu'il faut donner la Crimée, il suffirait que la population aussi s'en contente. Or, on voit bien que la population ukrainienne est chauffée à blanc sur la Crimée. Et ça, c'est de la faute de Zelensky.
Je peux ajouter
ça, c'est dans toutes les guerres. Malheureusement, il y a des pays qui ont changé de frontière. Je ne vais pas vous dire lequel, mais enfin, vous aurez compris, Charles Villeneuve.
N'oubliez pas que l'état-major du Pentagone suit une stratégie extrêmement fine, astucieuse, pas visible à l'œil nu, mais qui est dévastatrice pour le stock d'armes des Russes. En livrant les armes de la 5e génération, en livrant vraiment une artillerie extrêmement pointue et un anti-aérien tout aussi pointu, vous savez que les Russes, aujourd'hui, ont vu baisser leur stock d'armes de 20 à 30%. 6 000 engins blindés, chars lourds, chars légers ont été détruits dans cette opération. Ça fait 20 à 30% de leur stock d'armes.
Du coup, maintenant,
et ça fait 10 ans de tranquillité
aérien et non plus l'infanterie. Et
pour le Pentagone, ça fait 10 ans de tranquillité au niveau du rapport de force entre l'armée américaine et l'armée russe.
10 heures, n'empêche qu'il ne faut pas l'enterrer trop vite, l'armée russe.
41, et dans un instant, justement, on parle des États-Unis, mais aussi du Qatar. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
frontières de Villeneuve.
Avec Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou, direction les États-Unis. Un partout, la balle au centre. Si les démocrates conservent le Sénat d'une courte tête, c'est le scénario inverse qui se déroule à la Chambre des représentants, conservé par les républicains, qui vont donc pouvoir continuer de bloquer Joe Biden dans sa politique. Gérard Carrérou, est-ce que les républicains sont de retour dans la course?
Ils sont bien placés dans la course pour la prochaine fois. Après, il faut se demander avec quel candidat. Et c'est là que, si j'ose dire, que les difficultés commencent. Parce qu'il y en a, pour l'instant, il y en a deux possibles. Mm-hmm. Il y a Trump, je vais en dire un mot,
et puis il y a
le gouverneur de Floride, qui est l'émergent, avec sa femme et ses enfants, Kennedy, Ron DeSantis. Donc, mais ce n'est pas joué. Et de la même manière, je dirais que les Français ont eu tendance, il y a 5 ans, à ne pas voir monter, enfin je parle l'élite française, c'est ce qu'on appelle l'élite, ne pas voir monter Trump au Nirvana, faudrait pas enterrer trop vite Trump aujourd'hui. Parce que Trump, il y a quelque chose que les gens ne voient pas toujours, il y a un rapport particulier avec le peuple, mais le peuple au sens, j'allais dire un mot un peu vulgaire, le populo. Le populo et le peuple, c'est-à-dire le petit peuple, hein, le petit blanc américain, tout un peuple est très attaché à Trump. Et si les politiques, les journalistes, etc., américains, disent « oui, le temps de Trump est passé, il faut trouver quelqu'un d'autre, et DeSantis c'est formidable », ce peuple américain, il y a quand même plus de 70 millions de gens qui ont voté pour lui, et une bonne partie prête à... Donc il n'a pas perdu complètement la partie. Cela étant, moi, à titre personnel, je pense qu'ils auraient raison de prendre DeSantis, qui pourrait être un candidat victorieux à la prochaine élection présidentielle.
Michel Cotta.
Je pense qu'à partir du moment où la vague rouge qu'on attendait n'a pas eu lieu, c'est quand même une défaite, même si...
La vague rouge, c'est quand même... Voilà. Mais c'est pas pareil que... Voilà.
Mais à ce moment-là, quand même, on s'aperçoit que Trump est quand même très, très endommagé. On ne pensait pas du tout que c'était possible. Il y a un leader qui se détache. Et vraisemblablement, pendant les 2 ans qui viennent, toute la bagarre va être entre ces deux-là. Mais autrement, moi, je trouve que le problème est aussi du côté démocrate. Si quand même le Parti démocrate ne trouve à opposer que Joe Biden à son âge, et il a très bien réagi dans cette dernière élection et peut-être dans cette guerre d'Ukraine, il reste que ça fait quand même très combat de vieillards. Donc, je pense que le Parti démocrate garde un problème considérable qu'il n'arrive pas à résoudre. Enfin, pour le moment, on ne voit personne émerger. En revanche, il vaut mieux qu'il y ait 2 personnes qu'une du côté des Républicains.
Vaut mieux trop que pas assez. Non,
mais tu as raison. La seule déception pour les démocrates, c'est qu'ils avaient pris une femme vice-présidente et qu'elle a fait flop. Quoi.
Et qu'elle a disparu, surtout.
Oui, elle a disparu.
Elle était au départ, on disait que ça serait la présidente.
Mais c'est ce qu'on disait. Ouais. On disait elle a l'âge qu'il faut, elle a la couleur de peau qu'il faut, elle a tout ce qu'il fallait pour. Et manque de chance,
et
elle a fait flop.
Et tu disais qu'il n'y en a qu'une, c'est Michelle Obama.
Voilà. Elle a été présidente des États-Unis pendant, je crois, 12 heures, quand Joe Biden s'était fait opérer au tout début du mandat. Et puis, c'est tout. Charles Villeneuve.
Mais trouve que on parle de Ron DeSantis à juste raison parce qu'il a tout pour plaire. Il a évidemment les grandes écoles, c'est un SEALS, c'est-à-dire un Marines, etc. Il a 2 citations au feu, il a tout pour plaire au peuple américain, en gros. Hein, je crois.
Tout à fait. Oui.
Mais il y a aussi le vice-président de Trump qui, d'ailleurs, recueille pas mal de suffrages chez les chrétiens, notamment chez les évangélistes. Mike Pence, qui est quand même celui qui a commis un véritable crime aux yeux des Trumpistes, puisque c'est lui qui est allé reconnaître l'élection de Biden. Qui a donc ratifié cette élection.
Oui, généralement, chez Trump, on est blacklisté jusqu'à la fin de sa vie.
Et puis, il y en a d'autres. Il y a même un ancien de la CIA, lui aussi, c'est Pompeo, qui veut se présenter.
Mike Pompeo, il s'appelle Mike aussi.
Oui. Et donc c'est ça s'annonce, si vous voulez, des primaires en forme du steeplechase de la porte d'Auteuil, parce qu'il y a pas mal d'obstacles. Et c'est vrai que ça va être assez passionnant et intéressant, parce que les thèses ne sont pas les analyses, ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est quand même, n'oublions pas, le pays non seulement occidental, mais c'est le pays, jusqu'à présent, malgré les Chinois, malgré les Russes, malgré ce qui reste des Russes, d'ailleurs, de la puissance militaire russe, c'est le pays le plus puissant militairement de très loin. Et on l'a vu dans l'affaire de l'Ukraine.
Il suffit de voir en mer. Il suffit de voir en mer quand ils sortent les porte-avions.
11 porte-avions nucléaires.
Ce qui est significatif, c'est qu'on parle des républicains et qu'on ne parle toujours pas des démocrates. Donc,
à part le départ de Nancy Pelosi, qui était un symbole pour les démocrates.
Présidente de la Chambre des représentants.
Oui, symbole négatif parce qu'elle s'en va. Oui.
10h, c'est ça, 10h50, dans un instant, on parle du Qatar. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1. 10h, 11h. Pierre de Villeneuve.
Demain dimanche, la planète foot est en fête. 22e Coupe du Monde de la FIFA au Qatar. Fête entachée de longue date par la polémique sur ce que représente ce pays, les droits de l'homme, l'écologie, la place des minorités. Mais déjà en amont, Emmanuel Macron, hier au sommet de l'APEC, qui a suivi le G20, a prévenu « il ne faut pas politiser le sport ». Et ce matin, le patron de la FIFA dit « aujourd'hui ». Alors, le patron de la FIFA, Gianni Infantino, dit « je me sens qatari, je me sens arabe, je me sens africain, je me sens gay, je me sens handicapé, je me sens travailleur migrant, Charles Villeneuve. » Qu'est-ce qu'on fait là? On est en train de sauver les meubles? On fait de la communication?
Mais c'est pas sans précédent. Regardez le nombre de grandes compétitions de sport mondiales, les Jeux Olympiques à Sochi, les Jeux Olympiques à Pékin, qui ont été largement discutés. Rappelons-nous quand même qu'il y avait des banderoles sur la Tour Eiffel et Notre-Dame. La fameuse cathédrale à Paris. Il y avait des banderoles au moment des Jeux Olympiques de Pékin qui représentaient les anneaux olympiques en forme de menottes par rapport à la liberté de penser et de s'exprimer. Là, ce qu'il y a de vrai et ce qu'il faut remarquer, c'est que ce qu'il y a de nouveau, je dirais, dans cette tentative de boycott de la Coupe du Monde au Qatar, c'est qu'il y a un concentré de ce qui est contraire au progressisme des sociétés occidentales, c'est-à-dire l'écologie, les droits de l'homme, l'interdiction de l'homosexualité, les droits sociaux. Mais le boycott n'est pas nouveau. Et ce qui est intéressant dans cette affaire aussi, c'est que c'est la première fois qu'une Coupe du Monde de football va se dérouler dans un pays arabo-musulman aussi jeune, qui a été créé, rappelons-le, le Qatar en 71, aussi petit en superficie. C'est quoi? C'est pas plus grand que l'Île-de-France. La finale, je le rappelle au passage, est prévue le 18 décembre, ça commence demain. Bon, et quand en 2018, quand la France a gagné à Moscou, Poutine occupait déjà le Donbass et avait annexé la Crimée en Ukraine. Et là aussi, il y avait des tentatives de boycott, de protestation, etc. Ne l'oublions pas. Donc, rien n'est nouveau. Mais moi, ce que je trouve important, c'est la désignation pour la première fois d'un pays arabo-musulman pour la finale de la Coupe du Monde de football. Ben parce que c'est sans précédent. C'est la première fois qu'on sort, si vous voulez, du monde occidental, en gros.
Donc c'est un synonyme d'ouverture, c'est ça que vous voulez dire?
C'est ce que je veux dire.
Ça montre le côté planétaire du foot. C'est le seul sport qui, aujourd'hui, sur la planète, est planétaire.
Universel.
La seule chose qui me gêne Michel dans tout Cotard. Ça, c'est pas, au fond, c'est pas tellement le Qatar. Et effectivement, je trouve que c'est très bien qu'une compétition de ce genre ait lieu devant 450 millions d'Arabes. Je comprends très bien. Moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est quand même le processus. On ne peut pas éviter de revenir sur l'argent qui a été déversé et sur la FIFA. Et ce n'est pas la peine de reprendre tous les procès qui ont eu lieu, peu importe. Et en plus, ce serait trop long pour reprendre. Ce qui gêne, c'est que ça soit devenu le sport du fric. Voilà, moi c'est ça qui m'embête, c'est pas tellement le Qatar, bon le Qatar, les frères musulmans, bon on est d'accord, et puis il fait très chaud, donc on a déplacé...
Non, c'est pas vrai.
Qu'est-ce qui est pas vrai?
Eh bien parce qu'il va pas faire très chaud, nous sommes...
Ah ben oui, non, mais justement, c'est pour ça qu'on a changé le calendrier, quand on a choisi le Qatar, il fallait quand même...
À l'époque, il était question de le faire au calendrier normal.
Donc on s'est tous dit que le choix...
On est là.
Trop d'argent et trop d'intermédiaires ont coulé...
C'est pas comme
une dictature normale.
Les Chinois, 50 milliards, les Jeux Olympiques.
Non.
Alors là, évidemment, c'est cher en ce sens où...
Non, mais c'est cher parce que les gens ont été achetés, excuse-moi.
Le produit intérieur brut.
Mais les votes ont été achetés, on le sait.
Mais comment, comment mais... Tu as la preuve que les votes ont été achetés Attention, c'est une accusation qui relève du...
Enfin, c'est une accusation que je ne suis pas sûr à faire.
Juridique.
Si j'étais poursuivi en diffamation, je ne serais pas seul. Hein.
Oui, mais d'accord. Mais si ça te... finalement te tranquillise de ne pas être seul...
Chers amis, moi je vais quand même finir, comme on dit au golf, sur une bonne balle, en vous disant que notre émission est écoutée de plus en plus. Vous êtes plusieurs centaines de milliers à nous écouter tous les samedis et c'est en forte progression et nous voulions, au nom des grandes voix, vous remercier vraiment de tout notre cœur de nous écouter. Et merci à vous, chère grande voix. Merci Gérard, merci Charles et merci Michel. Et bien sûr, merci à Catherine qui doit nous écouter de là où elle est, 10h57. Laurent Mariotte, bonjour.
Bonjour Pierre et bonjour les grandes voix.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on met le fait maison en conserve. Pratique économique, on en parle avec notre camarade Yves Candebord, pas besoin de vous le
Michel,
présenter. Et Gaspard
milliards.
Proust, lui non plus, pas besoin de vous le présenter, sera des nôtres. Il se met à table dans un instant. A tout de suite.
À tout de suite.